journal du docteur Seward. 24 octobre. Combien je regrette de n'avoir pas mon phonographe. Rien ne m'ennuie comme d'écrire mon journal à la plume. Mais Van Helsing dit qu'il le faut. Nous avons eu un accès de folle agitation quand ce matin Godalming a reçu le télégramme du Lloyd. Je sais à présent ce que les soldats peuvent éprouver en entendant le signal de l'attaque. Seul de nous tous, Mrs. Harker ne donne aucune marque d'émotion, car nous eûmes soin de lui laisser tout ignorer et de ne rien lui laisser voir de notre impatience. Autrefois, j'en suis sûr, elle aurait tout remarqué. Quelque peine que nous eussions prise pour dissimuler. Mais sous ce rapport, elle a beaucoup changé depuis les trois dernières semaines. Une léthargie s'étend sur elle, quoiqu'elle semble forte et bien portante, et qu'elle ait repris ses anciennes couleurs. Van Helsing et moi, nous ne sommes pas satisfaits. Nous parlons souvent d'elle, sans du reste en rien dire aux autres. Ce serait briser le cœur et sûrement les nerfs du pauvre Harker que de lui laisser deviner nos soupçons. Van Helsing examine attentivement, me dit-il, ses dents, tandis qu'elle est en état d'hypnose, assurant qu'aussi longtemps qu'elle ne devienne pas plus aiguë, il n'y a pas danger urgent d'une transformation. Si cette transformation s'amorçait, il faudrait prendre des mesures. Nous savons ce qu'elle serait, quoique nous n'échangions pas nos pensées à ce sujet. Aucun de nous ne reculera devant la tâche, si affreuse qu'elle puisse être. Euthanasie est un mot excellent et réconfortant. J'ai de la reconnaissance pour celui qui l'a inventé. Il y a environ 24 heures de mer des Dardanelles jusqu'ici, à l'allure que le tsarine Catherine a pratiquée depuis Londres. Le bateau devrait donc arriver demain matin. Comme ce ne peut être plus tôt, nous avons décidé de nous retirer et de nous lever à 1 heure afin d'être prêts. 25 octobre, midi. Aucune nouvelle de l'arrivée du bateau, le message de Mrs. Harker au cours de la transe est le même que d'habitude, de sorte que nous pouvons apprendre quelque chose d'un moment à l'autre. Nous sommes dans la fièvre, à l'exception de Harker qui reste calme. Ses mains sont d'un froid de glace et tout à l'heure je l'ai trouvé aiguisant le grand couteau au gurkha qu'il ne quitte plus. Vilaine perspective pour le comte, la pointe de ce kukri touchant sa gorge et enfoncée par cette main résolue et glaciale. Van Helsing et moi, nous sommes aujourd'hui quelque peu inquiets au sujet de Mrs. Harker. Elle est tombée un peu avant midi dans une sorte de léthargie qui ne nous plaît pas. Nous n'en avons rien dit aux autres, mais nous nous en attristons. Elle avait été très agitée toute la matinée, de telle sorte que nous fûmes d'abord contents de savoir qu'elle se reposait, lorsque cependant son mari nous dit en passant qu'elle dormait si fort qu'il ne pouvait la réveiller, nous sommes entrés dans sa chambre pour en juger par nous-mêmes. Elle respirait naturellement et semblait si bien, si paisible, que nous sommes tombés d'accord pour penser que rien ne pouvait lui être plus bienfaisant que le sommeil. Pauvre petite. Elle en a long à oublier. Rien d'étonnant si le sommeil qui le lui permet lui est propice. Plus tard. Notre sentiment était exact, car lorsqu'elle se réveilla après avoir dormi plusieurs heures, elle parut plus animée, mieux portante qu'elle n'a été depuis bien des jours. Au crépuscule, elle fit son habituel rapport sous hypnose. Où qu'il soit sur la mer noire, le comte se hâte vers son but, vers son jugement. Oh, j'y compte bien. 26 octobre. Une journée encore sans nouvelles du tsarine Catherine. Il devrait être ici, à présent. Il navigue toujours quelque part, assurément, car Mrs. Harker, au cours de sa transe, à l'aube, a répété ce qu'elle dit chaque jour. Il est possible que le navire soit immobilisé momentanément par du brouillard. Quelques steamers arrivés hier soir ont signalé des îlots de brume, à la fois au nord du port et au sud. Nous devons poursuivre notre guet, car le bateau peut être annoncé d'un moment à l'autre. 27 octobre, midi. Étrange. Aucune nouvelle du navire attendu. Mrs. Harker, hier soir et ce matin, a dit comme d'habitude, « Vagues clapotantes, coup d'eau », tout en ajoutant, « Les vagues sont très faibles ». Londres télégraphie invariablement « Rien à signaler ». Van Helsing, terriblement inquiet, vient de me dire qu'il redoute à présent que le comte nous ait échappé. Il ajouta avec intention « Je n'aime pas cette léthargie de Madame Mina. Les âmes et les souvenirs peuvent faire d'étranges choses en cours d'hypnose. » J'étais sur le point de lui demander davantage quand d'un signe de la main il m'avertit de me taire, car Harker entrait. Nous essayerons ce soir d'obtenir que Mrs. Harker nous en dise plus long au cours de la transe. Télégramme de Rufus Smith, Londres, à Lord Godalming, aux soins de Sa Majesté britannique, vice-consul, Varna. 28 octobre. Tsarine Catherine signalée à l'entrée du port de Galatz, aujourd'hui à 1h. Journal du Dr. Seward. 28 octobre. Quand nous parvint ce télégramme annonçant l'arrivée du navire à Galatz, le choc fut pour nous moins violent qu'on aurait pu le croire. Sans savoir d'où, ni quand, ni comment viendrait le coup, nous nous attendions à quelque chose de surprenant. Le retard de son arrivée à Varna avait convaincu chacun de nous que les événements ne se dérouleraient pas exactement comme nous l'avions prévu. Il nous restait simplement à apprendre sur quel point se ferait la déviation. Ce fut néanmoins une surprise. La nature, je suppose, compte sur ce fond d'espérance qui nous fait croire malgré nous-mêmes que les choses seront comme elles devaient être et non comme nous savons qu'elles seront. Le transcendantalisme est un fanal pour les anges, même si ce n'est qu'une allumette pour l'homme. Ce fut une étrange expérience où chacun de nous réagit à sa façon. Van Helsing leva les bras au ciel comme pour s'expliquer avec le Tout-Puissant, mais sans dire un mot, et un instant après il se ressaisit, le visage calme. Lord Godalming devint très pâle et s'assit, la respiration entrecoupée. J'étais à demi étourdi, mon regard allait de l'un à l'autre. Quincy Morris resserra sa ceinture de ce mouvement rapide que je connais si bien. Au temps de nos excursions et de nos chasses, cela signifiait « il faut agir ». Mrs. Harker devint pâle comme une morte, et la balafre sur son front parut brûlante, mais elle joignit doucement les mains comme si elle priait. Harker souriait. Oui, il souriait du sombre sourire amer de celui qui n'espère plus rien. Mais en même temps, ce sourire démentait ses paroles, car ses mains cherchaient d'instinct la poignée de son grand couteau cucri et s'y cramponnaient. « Quand part le prochain train pour Galatz ?» demanda Van Helsing à la cantonade.
« À 6h30, demain matin. »
Nous sursautâmes, car la réponse venait de Mrs. Harker. « Comment, bon Dieu, le savez-vous ? » demanda Hart.
Vous oubliez, ou peut-être vous n'avez jamais su, que j'ai la passion des trains. Chez nous, à Exeter, j'avais pris l'habitude d'étudier les horaires afin d'aider mon mari. Cela me parut souvent si utile que je continue à le faire. Je savais que si nous étions obligés d'aller au château de Dracula, nous devrions passer par Galatz, ou en tout cas par Bucarest, et c'est pourquoi j'ai appris soigneusement les horaires. Il n'y a malheureusement pas grand-chose à apprendre, car le seul train demain part à l'heure que j'ai dite.
« Quelle femme étonnante !» murmura le professeur. «
Nous pourrions nous faire chauffer un train spécial ?» demanda Lord Godalming. Van Helsing secoua la tête.
« Oh, j'ai peur que non. Ce pays ne ressemble ni au vôtre ni au mien. Si même nous avions un train spécial, il n'arriverait probablement pas avant l'autre. Sans compter que nous avons des préparatifs à faire, il nous faut réfléchir et nous organiser. Ami Arthur, allez à la gare, prenez les billets et arrangez tout afin que nous soyons prêts à partir demain matin. Ami Jonathan, allez au bureau maritime et obtenez de ce bureau des lettres pour son agent de Galatz, avec le droit de faire enquête sur le bateau, exactement comme nous l'avions ici à Varna. Quincy Morris, allez trouver le vice-consul et obtenez son appui auprès de son collègue de Galatz afin qu'il aplanisse notre route et que nous ne perdions pas de temps une fois que nous serons sur le Danube. John restera avec Madame Mina et moi pour délibérer, car vous pourrez être retenu. Peu importe le moment du crépuscule, puisque je suis ici auprès de Madame Mina.
Et moi, dit-elle gaiement, plus semblable à son ancienne personnalité qu'elle ne l'avait été depuis longtemps, j'essaierai de vous aider de diverses manières en pensant et en écrivant pour vous comme j'en avais l'habitude. Quelque chose en moi se modifie étrangement, et je me sens plus libre que je ne l'ai été depuis longtemps.
Le visage des trois jeunes hommes s'éclaira dès qu'ils crurent comprendre ce que signifiaient ces mots, mais Van Helsing et moi échangeâmes un regard sérieux et inquiet. Sur le moment, nous ne fîmes cependant aucun commentaire. Lorsque le trio fut parti accomplir sa mission, Van Helsing pria Mrs. Harker d'examiner les exemplaires des journaux et de prendre pour lui celui que Harker avait tenu pendant son séjour au château. Elle nous quitta. Dès qu'elle eut refermé la porte, il me dit «
Vous avez la même idée que moi. Parlez. Il y a quelque chose de changé, une espérance qui me donne mal au cœur, car elle peut nous induire en erreur.
D'accord. Savez-vous pourquoi je lui ai demandé d'aller chercher le manuscrit?
Non, si ce n'est peut-être pour avoir une occasion de me voir seul à seul.
C'est vrai, en partie, mon cher John. En partie seulement. J'ai quelque chose à vous dire. Mon ami, je vais prendre un terrible risque. Au moment où Madame Mina a prononcé ces mots qui tiennent notre esprit en suspens, une inspiration m'est venue. Il y a 3 jours, au cours de l'hypnose, le comte lui a député son esprit afin de lire en elle, ou plus exactement, il l'a appelée afin qu'elle le vît dans sa caisse de terre sur le bateau au milieu des vagues, au moment où il est libéré par l'aube et par le crépuscule. Il a appris à ce moment que nous étions ici, car elle, qui peut aller et venir avec des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, a plus à raconter que lui dans son cercueil. Il fait en ce moment un effort suprême afin de nous échapper. Ah, pour l'instant, il n'a pas besoin d'elle, convaincu dans son immense savoir qu'elle se rendra à son appel, mais il a coupé la communication. Il a détendu son pouvoir sur elle afin qu'elle ne revienne plus vers lui. Voilà. Oui, voilà pourquoi j'espère que nos cerveaux d'hommes, qui ont si longtemps appartenu à l'humanité et qui n'ont point perdu la grâce divine, l'emporteront sur son cerveau d'enfant, enfermé depuis des siècles dans la tombe et incapable d'arriver à notre niveau, borné qu'il est à des travaux égoïstes et par conséquent mesquins. Voici Madame Mina. Pas un mot concernant sa transe. Elle n'en sait rien. Elle en serait abattue, désespérée, au moment où nous avons besoin de tout son espoir, de tout son courage, de tout son cerveau comparable à celui d'un homme, mais qui est celui d'une douce femme, douée de plus d'une force que le comte lui a transmise et qu'il ne peut lui retirer tout d'un coup, même s'il imagine le contraire. Silence. Laissez-moi parler et vous comprendrez. John, mon ami, dans quelle terrible impasse nous sommes. J'ai peur comme jamais je n'ai eu peur. Nous ne pouvons pas nous fier à Dieu. Silence. La voici.
Je crus que le professeur allait s'effondrer en une crise nerveuse comme celle qu'il eut lors de la mort de Lucie. Mais un grand effort lui permit de se ressaisir, et il était totalement maître de lui quand entra Mrs. Harker, sereine, heureuse et occupée d'un travail qui semblait lui faire oublier son malheur. Elle remit aussitôt un paquet de feuilles dactylographiées à Van Helsing, qui les considéra attentivement, son visage s'éclairant à mesure qu'il lisait. Puis il dit, tenant les pages entre le pouce et l'index,
« Ah, mais John, vous qui avez déjà une si grande expérience, et vous aussi, chère Madame Mina, qui êtes jeune, voici une leçon pour nous. Ne craignons jamais de penser fortement. Une demi-idée bourdonne souvent dans mon cerveau, mais autrefois, j'avais peur de lui laisser perdre ses ailes. Maintenant, mieux informé, je remonte à l'endroit d'où cette demi-idée m'est venue et je découvre que c'est tout autre chose, une idée véritable, même si elle est encore trop jeune pour se servir de ses petites ailes. Oui, elle est semblable au vilain petit canard de mon ami Hans Andersen. Ce n'est pas du tout une idée canard, mais une grande idée cygne qui vogue noblement sur ses grandes ailes lorsque le moment vient d'en faire l'essai. Je vous lis ce que Jonathan a écrit. À celui de ses descendants qui, bien plus tard, fit à nouveau passer le fleuve à ses troupes pour envahir la Turquie, qui, ayant battu en retraite, revint cependant plusieurs fois à la charge, seul, et laissant derrière lui le champ de bataille où gisaient ses soldats parce qu'il savait que finalement, à lui seul, il triompherait. Qu'est-ce que cela nous apprend? Pas grand-chose.
Non. L'esprit enfant du comte ne voit rien, c'est pourquoi il parle si librement. Votre esprit adulte ne voit rien, le mien non plus, en tout cas pas jusqu'à présent, non. Mais voici un autre mot d'une personne qui parle sans réfléchir parce qu'elle non plus ne sait pas ce que cela signifie, ce que cela peut signifier. De même, voilà des éléments au repos, mais que le mouvement de la nature les entraîne et les met en contact et pouf, jaillit un éclair de lumière vaste comme le ciel qui aveugle et tue et détruit, mais qui révèle la terre ici-bas sur des lieux et des lieux. N'est-ce pas ainsi?
Bon, je m'explique. D'abord,
Avez-vous étudié la philosophie du crime ?
Oui et non. Vous, John, oui, car elle est comprise dans l'étude de la folie. Vous, Madame Mina, non, car le crime ne vous concerne pas, sauf qu'il vous a concerné une seule fois. Mais votre esprit va son droit chemin et résonne du particulier à l'universel. Il y a chez les criminels une particularité si constante, en tout pays, en toute époque, que même la police, qui ne sait pas grand-chose de la philosophie, est arrivée empiriquement à l'affirmer. Le criminel s'obstine sur un crime unique, du moins le vrai criminel, qui semble prédestiné au crime et ne poursuit rien d'autre. Le criminel n'a pas un cerveau complètement adulte. Il est lucide, habile, plein de ressources, mais en ce qui concerne le cerveau, sa croissance n'est pas complète. Sous bien des rapports, il est resté au stade de l'enfant. Or, notre criminel est prédestiné au crime. Son cerveau est demeuré infantile, car c'était un enfantillage ce qu'il a fait. Le petit oiseau, le petit poisson, le petit animal ne s'instruisent pas en vertu de principe, mais par l'expérience. Et ce qu'ils apprennent leur sert de tremplin pour en faire davantage. « Donnez-moi un point d'appui, disait Archimède, et je soulèverai le monde. » Le premier essai est le point d'appui grâce auquel un cerveau d'enfant devient adulte, et jusqu'au moment où il se propose d'en faire davantage, il recommence chaque fois ce qu'il a fait auparavant. « Ma chère, je vois que vos yeux se sont ouverts et que l'éclair illumine pour vous des lieux de pays. » En effet, Mrs. Harker battait des mains et ses regards brillaient. Il poursuivit. « Maintenant parlez. Dites-nous, à nous, les froids savants, ce que vous voyez avec vos yeux si brillants. » Il lui prit la main tandis qu'elle parlait, le pouce et l'index lui tenant l'artère, instinctivement, inconsciemment, je pense. « Le comte est un criminel du type criminel, dit-elle. Nordo et Lombroso le mettraient dans cette catégorie. Et parce que criminel, son esprit est resté imparfait. C'est pourquoi, si une difficulté se présente, il cherche la solution dans la routine. Sa seule ressource est son passé. La seule page que nous en connaissions, et de sa propre bouche, nous apprend qu'une fois déjà dans une mauvaise passe, comme dirait Mr. Morris, il rentra dans son pays après avoir tenté d'en envahir un autre, et là, sans renoncer à son objectif, se prépara à une nouvelle tentative. Il revint à la charge, mieux équipé, et gagna la partie. C'est ainsi qu'il parvint à Londres pour conquérir un pays nouveau. Il fut vaincu, et quand tout espoir fut perdu, que son existence même fut en danger, il s'enfuit par mer pour rentrer chez lui, juste comme autrefois il avait passé le Danube pour revenir de Turquie. « Très bien, très bien. Oh, dame intelligente !» s'écria Van Helsing avec enthousiasme en s'inclinant pour lui baiser la main. Un instant après, aussi calme que s'il avait donné une consultation dans la chambre d'un malade, il se tourna vers moi. 72 pulsations, pas plus, et dans une telle excitation. J'ai bon espoir. Puis, s'adressant à nouveau à elle, il reprit avec impatience. « Mais poursuivez, poursuivez. Vous pouvez en dire davantage si vous voulez. N'ayez aucune crainte, John et moi, nous savons. Moi, en tout cas, et je vous dirai si vous êtes dans le vrai. Parlez sans peur. J'essayerai, mais pardonnez-moi si je semble ne parler que de moi. » « Non, ne craignez rien. » Vous devez parler de vous, puisque c'est à vous que nous pensons. Eh bien, en tant que criminel, il est égoïste. Comme son intelligence est étroite et son action fondée sur l'égoïsme, il se borne à un seul objectif et n'y admet aucun remords. De même qu'il repassa le Danube, laissant massacrer ses hommes, de même à présent, il songe à se mettre à l'abri et le reste ne l'intéresse plus. C'est pourquoi son égoïsme libère quelque peu mon âme du pouvoir terrifiant qu'il avait pris sur moi pendant la nuit sinistre. Grâce en soit rendue au Dieu de miséricorde. Mon âme est plus libre qu'elle ne l'a été depuis cette nuit affreuse. Une seule crainte me hante encore. Dans une transe, dans un rêve, a-t-il pu employer à ses fins une connaissance venue de moi ? Le professeur se leva. « Il l'a fait, » dit-il. Et c'est ainsi qu'il nous a laissés ici, à Varna, tandis que le bateau qui l'emportait fonçait dans une colonne de brouillard vers Galatz, où, n'en doutons pas, il avait tout préparé afin de nous échapper. Mais son cerveau d'enfant n'a pas vu au-delà. Et il peut se faire, comme le veut toujours la divine Providence, que ce que le malfaiteur a considéré comme son bien devienne son suprême malheur. Le chasseur se prend à son propre lacet, dit le grand psalmiste.
En effet, à présent qu'il se croit libéré de toute poursuite de notre part et qu'il nous a échappé avec tant d'heures d'avance sur nous, son égoïste cerveau d'enfant va lui conseiller de prendre du repos. Il pense de plus que, puisqu'il a coupé son esprit du vôtre, vous ne savez plus rien de lui, et là gît son erreur. Le terrible baptême de sang qu'il vous a infligé vous laisse libre d'aller en pensée vers lui, ainsi que vous l'avez déjà fait, quand le soleil se lève et se couche. À ces moments-là, c'est à ma volonté que vous obéissez, non à la sienne. Ce pouvoir pour votre bien et celui d'autrui, vous l'avez gagné en souffrant par ses mains. Ce don est d'autant plus précieux qu'il l'ignore et que pour se préserver, il s'est coupé de toute connaissance relative à nous. Nous, en revanche, nous ne sommes pas égoïstes et nous croyons que Dieu est avec nous à travers toute cette noirceur et ces heures sombres. Nous poursuivrons ce monstre. Nous ne flancherons pas, même si nous sommes en danger de devenir semblables à lui. Mon cher John, ceci fut un grand moment fort important pour nous. Faites-vous scribe et consignez tout cela afin qu'au retour des autres, leur mission faite, vous puissiez le leur faire connaître et qu'ils sachent ce que nous savons. J'ai donc écrit en les attendant et Mrs. Harker a tout tapé à la machine, du moins à partir du moment où elle nous a apporté le journal de son mari.